Ce reportage a été possible grâce aux donateurs qui ont supporté ma levée de fonds sur Indiegogo. Au nom de tout mon public et en mon nom personnel, je vous remercie du fond du cœur. Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à cette diffusion en direct du samedi matin 13 janvier 2018. Et ce vidéo-là se fait dans le cadre de la levée de fonds Indiegogo que j'ai faite pour suivre le procès Awada Magnan. Donc, pour faire un résumé, Dalila Awada a emmené en cours Philippe Magnan, donc l'accuse de diffamation. Et comme Dalila Awada est, comment je pourrais dire, est une musulmane qui porte le voile et qui a été une, je dirais, des personnes importantes en faveur du voile dans le cadre du débat qu'il y a eu autour de la Charte des valeurs du Parti québécois, et que Philippe Magnan également était un acteur dans le sens où son site Poste de veille militait, lui, pour les Jeannettes. Donc, j'avais des soupçons que il y avait une tentative de baillon, qu'il s'agissait de djihad juridique et que je devais aller voir ce procès-là pour voir si effectivement il y a un djihad juridique ou une évidence de djihad juridique, je devrais plutôt dire, et si, encore une fois, c'était une attaque à la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que j'avais des soupçons? Ben, Poste de veille, ça fait depuis décembre 2016 qu'il est inactif et c'était quand même un média qui produisait des articles et des vidéos que moi je trouvais très intéressants. Et d'un autre côté, ben, il y a Dalila Awada, qui a ses avocats sont pro bono, etc. Donc, ça sentait pas bon. Alors, j'ai organisé une levée de fonds pour aller voir ça et faire des reportages pour essayer de livrer au maximum la vérité. Évidemment, la vérité, ça existe-tu vraiment, mais si on a une démarche qui est honnête et puis qu'on est capable d'appuyer nos impressions avec des faits, ben on se rapproche à quelque part de la vérité. Mais la vérité absolue, encore une fois, c'est quelque chose qui, comme la lune, est en éternel changement. Alors, je fais mon possible pour livrer la vérité. En tout cas, au moins, c'est mon objectif. C'est déjà ça. Alors, cette semaine, il y a eu évidemment des audiences à la cour du Palais de justice de Montréal les procédures ont été plus lentes que j'avais anticipé, dans le sens où, à l'intérieur des 5 jours, il y a eu uniquement les preuves qui ont été déposées. Donc, on commence par la preuve de la défendresse, qui est Mme Awada. Donc, son témoignage, des témoins qui sont interrogés et contre-interrogés par Philippe Magnan. Et je dis par Philippe Magnan et non pas par l'avocat de Philippe Magnan, parce que Philippe Magnan se représentait seul, visiblement par faute de moyens financiers. Et ensuite, ça a été le tour de Philippe Magnan de témoigner. Et hier, vendredi après-midi, on a assisté au contre-interrogatoire de la demanderesse, donc de l'avocate. Il y a 2 avocats, mais dans ce cas-ci, c'est Maître Dubé qui posait les questions à Philippe Magnan en contre-interrogatoire. Donc, il n'y a pas eu les plaidoiries encore. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions générales sans entrer dans trop de détails, parce que comme les plaidoiries n'ont pas eu lieu encore et que moi, visiblement, je suis en contact avec Philippe Magnan, je suis un observateur de ce procès-là, je ne veux pas être un acteur de ce procès-là, je ne veux pas m'ingérer dans ce procès-là. Donc, si je commence à rentrer trop dans les détails dans l'analyse, ben ce que je dis pourrait être utilisé par un ou les deux clans dans leur plaidoirie et je ne voudrais pas faire ça. Par contre, je peux vous faire une prédiction basée sur Ben, ce que je connais du droit au niveau de la diffamation, puis encore là, je suis pas un avocat, mais j'ai quand même, je me suis informé. Et sur ce que j'ai vu, d'après moi, la juge, qu'est-ce qu'elle doit regarder? Et qu'est-ce qu'elle doit regarder? Ben, j'ai vu du côté de Mme Awada, ben, se dessine une stratégie lorsque ils font témoigner des gens ou Mme Awada témoigne elle-même. Tu vois une stratégie qui est en train de se former. Même chose du côté de Philippe Magnan. T'sais, les témoins, les questions qu'il pose, tu vois sur quoi il va baser sa plaidoirie. Alors, au niveau de la diffamation, ce que je comprends, et peut-être qu'un avocat pourrait me corriger ou soit apporter des points supplémentaires, et s'il veut le faire en privé, je rectifierai, ou s'il peut faire bénéficier les gens du chat, etc., il n'y a pas de problème. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a trois façons, trois modèles où tu peux emmener quelqu'un en cours pour diffamation. Ça peut être les trois, ça peut être un des trois. Ou le deux, ou peu importe. La première chose, c'est une personne a menti pour te faire mal paraître, pour te diffamer. Elle a menti consciemment dans le but de te diffamer. Et je pense que le clan Awada va jouer sur cet aspect-là, dans le sens où il y a un enregistrement où on entend Philippe Magnan. Donc, c'est Maître Rémi Bourget qui a rencontré Philippe Magnan dans un parc à Montréal. Et c'était suite à l'insistance de Philippe Magnan de le rencontrer. Là, rappelez-vous, là, on est dans le contexte de la charte des valeurs québécoises, dans tout ce débat-là. Rémi Bourget a fondé Québec inclusif avec d'autres personnes. Il y a Mme Awada là-dedans, évidemment. Et les autres ne sont pas contents des vidéos de Philippe Magnan via poste de veille. Et Philippe Magnan veut les rencontrer. Et à un moment donné, il se rend compte, mais lui, il enregistre la conversation. Il y a des gens qui ont dit, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait. Mais honnêtement, si je me mets à la place de Maître Bourget, j'aurais fait la même affaire. Parce que tu rencontres un média, ce média-là te place dans une mauvaise situation. Tu sais, on s'entend, c'est pas de la bonne presse. Il n'a pas fait de la bonne presse à Québec inclusif. Et lui, il s'est dit, ben, en l'enregistrant, mettons que suite à cette rencontre-là, il décide de faire une vidéo ou un article basé sur cet entretien-là et qu'il ment, ou peu importe, bien, à ce moment-là, j'aurai un enregistrement pour me protéger, pour montrer. Et moi, je fais ça, là, honnêtement. À chaque fois que je parle à un journaliste, j'enregistre, là, c'est sûr, sûr, sûr. Bien, je ne leur fais pas confiance. Alors, si jamais ils mentent, bien là, je sors l'enregistrement. Regardez, ils ont menti, tu vois, pour me protéger. Parce qu'eux, ils parlent à des dizaines, des centaines de milliers de personnes, puis moi, je parle à des dizaines ou des centaines de personnes dans le meilleur des cas. Alors, moi, je trouve ça correct. J'aurais fait la même chose si j'étais Maître Bourget. Alors, dans cet enregistrement-là, et il y a un extrait qui a coulé dans les médias, en fait, que Rémi Bourget a fait couler dans les médias, où on entend Philippe Magnan dire Dalila Awada n'est pas une islamiste et je l'ai instrumentalisée. Donc, si, par exemple, dans une hypothèse où il s'agirait de djihad juridique, ben, tu as un aveu d'une personne qui dit « Je sais que ce n'est pas une islamiste et je l'ai instrumentalisé. » À ce moment-là, tu peux jouer sur le premier point, c'est-à-dire il a menti pour me faire mal paraître. Donc, Mme Awada, à la lumière des vidéos de poste de veille, si on regarde strictement au niveau de la diffamation, et en plus, on a un aveu de l'auteur des vidéos qui dit je l'ai instrumentalisé et je sais que ce n'est pas une islamiste, ben à ce moment-là, elle a toutes les raisons d'entreprendre une poursuite. Elle aurait dû, d'après moi, mais encore là, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas dans ses chaussures, envoyer une mise en demeure, au moins commencer comme ça. Parce que c'était clair que Philippe Magnan voulait entrer en contact avec elle. Sauf que, tu sais, quand tu as des échanges houleux, puis en plus, tu as un enregistrement qui dit « je l'ai instrumentalisé et je sais que ce n'est pas une islamiste », dans sa tête à elle, Ben non, tu sais, la personne n'est pas de bonne foi, là. Donc, je peux comprendre. Alors, il y a des éléments qui vont appuyer la thèse, par exemple, d'un djihad juridique, et il y a des éléments qui vont appuyer la thèse qu'il n'y a pas de djihad juridique. Ça prend des évidences. Et si j'ai une évidence qui est contredite par une autre évidence, donc c'est pas une évidence que j'ai dans les mains, c'est un fait. Comme par exemple, est-ce que Dalila Awada est une islamiste? Je dis, ben, elle porte un voile. OK, c'est un fait. Ben, ça démontre rien, c'est un fait. OK, elle fréquente telle mosquée qui, elle, est intégriste. Ah, OK, elle est intégriste, mais pas nécessairement islamiste. OK, ben, mais c'est un fait. Ou, t'sais. Puis en passant, dans le procès, ce qu'on a su, c'est qu'elle ne fréquente pas de mosquée. Fréquenter dans le sens d'aller à la mosquée fréquemment, là. On s'entend. T'sais, c'est comme moi, si je vais à l'église pour la messe de minuit, ben tu peux pas dire que je fréquente l'église. Je suis allé là ponctuellement. Bon. Alors, c'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui m'ostinent à la vie, à la mort. Non, il s'agit d'un djihad juridique, etc. C'est qu'il y a des faits qui vont peut-être appuyer ça et il y a des faits qui vont appuyer d'autres choses. Alors, pour dire il y a un djihad juridique, ça prend des évidences qui ne sont pas contredites par d'autres évidences. À ce moment-ci, je peux vous donner les éléments qui pourraient appuyer une thèse comme ça, puis d'autres éléments qui disent le contraire, puis au pire, vous ferez votre propre jugement. Mais moi, je n'ai pas été ébloui par des évidences qu'il s'agit d'un djihad juridique. Alors, au niveau de la diffamation, premier point, on ment pour me faire mal paraître. Le deuxième point, c'est j'ai pas dit la vérité, mais je la connaissais pas la vérité. Mais j'aurais dû faire plus de recherches. Donc, on appelle ça être téméraire, la témérité. Le journaliste, c'est il rentre dans un endroit, puis il regarde 3-4 faits, il s'en va. Puis là, basé sur ces faits-là, il écrit quelque chose qui est mensonger, mais il ne savait pas que c'était mensonger, mais il aurait dû investiguer plus. Donc, c'est ce qu'on va reprocher à quelqu'un, par exemple, qui est téméraire. Alors, c'est sûr que le clan Wada, dans la poursuite, s'est dit, ben il n'a pas fait toutes ses recherches. Donc, je peux peut-être emmener ce deuxième point-là aussi. Il a agi avec témérité. Et le troisième aspect, c'est j'ai dit quelque chose de vrai, c'était vrai, c'est prouvable que c'est vrai, mais ce n'est pas d'intérêt public et ça a été dit uniquement pour nuire à la personne. Comme par exemple, Dalila Awada, oui, c'est une personnalité publique qui s'implique dans un débat public et elle a été à la télévision nationale, etc., oui. Mais par contre, si Dalila Awada sort d'un sex shop avec deux sacs pleins, toi, ta voix, tu prends en photo, puis tu mets ça sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est pas d'intérêt public et que tu le fais uniquement pour la faire mal paraître et peut-être qu'elle va avoir des conséquences de ça. Donc, d'un côté, tu as la diffamation. De l'autre côté, ben, comment est-ce que j'attache un montant à ça? Ben, c'est selon les préjudices que j'ai subis. Ces préjudices-là peuvent être d'ordre financier. Comme par exemple, j'ai été diffamé et à cause de ça, j'ai perdu des contrats, j'ai perdu des revenus, puis moi, je veux que tu me compenses pour ces revenus-là. Ou, ça peut être les deux, j'ai subi un traumatisme psychologique, puis encore une fois, que je dois attacher là, à un montant là aussi. Là, tu vois, faut que ce traumatisme-là m'ait causé un dommage que je suis capable de calculer. Là, tu sais. La cour doit être en mesure. Si tu demandes un montant, il faut que tu sois capable de justifier pourquoi tu demandes ce montant-là. Donc ça, avant que le procès débute, puis encore une fois, c'est ma vision à moi. Là. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est ma vision à moi. Le clan Awada avait toutes les raisons de croire que Mme Awada a été diffamée, d'une part, par quelqu'un qui a menti, donc il a fait un aveu qui l'a instrumentalisé et qui savait que c'était pas une islamiste. Et deuxième chose, il a fait des reportages sur Internet, en public, avec beaucoup de visionnement. Et il a mal fait ou il a bâclé ses recherches ou il aurait dû savoir parce qu'il a dit des choses qui étaient erronées, mais il aurait dû savoir c'est parce qu'il n'a pas fait assez de recherches. Au niveau de la défense, ben lui, il doit démontrer d'une part qu'il n'a pas menti et qu'il a fait le travail nécessaire pour appuyer ce qu'il affirme dans ses vidéos. Alors ça, c'est la stratégie, je dirais, du clan Wada, c'est de démontrer qu'elle a subi un préjudice. Je pense pas, j'ai pas entendu, en tout cas, ou pas vu là-dedans que le préjudice était financier. Et ça serait difficile à appuyer ça aussi parce que il y a quelques semaines, Mme Awada était dans le Journal de Montréal, en tout cas sur le site web. Là, moi, j'achète pas la copie papier, mais elle était sur un site du Journal de Montréal où il y avait un article qui disait « Voici 31 femmes inspirantes à surveiller en 2018 » et Mme Awada était là-dedans. Donc, on s'entend que sa réputation n'est pas affectée là, par cette histoire-là. Et au niveau d'un préjudice moral, et effectivement qu'elle a reçu beaucoup de messages de haine, et c'est triste, mais et peut-être que c'est partout dans le monde comme ça, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça au Québec. Quand tu donnes ton opinion en public, il y a, si on s'entend, les épais, là, il n'y a pas de pénurie d'épais au Québec. Il y a des personnes qui, si tu donnes une opinion qui est différente de la leur, ils le prennent personnel, ils virent fou, puis ils vont t'envoyer chier, là. T'sais, ils vont t'haïr, ils vont aimer t'haïr. Tu sais, des Mongols, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup de ça. Sauf que si une personne m'insulte sur un réseau comme Twitter, Facebook, etc., bien, j'en déduis que cette personne-là est beaucoup moins intelligente que moi. Parce que les gens qui sont en désaccord avec moi et qui sont intelligents vont en général m'envoyer un message privé et ils vont jamais attaquer ma personne. Ils vont dire « Écoute, je suis en désaccord avec toi à cause de ça, 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 ça. » Tu sais, mais c'est rare qu'il y ait des insultes, là, ou jamais, là, on s'entend. Alors, c'est juste les imbéciles qui vont t'envoyer des messages de haine. Et ça fait partie de la game quand tu donnes ton opinion en public. Et évidemment, plus le sujet est polarisé, plus le sujet est sensible et plus tu es populaire, bien, c'est exponentiel. Là. Tu vas recevoir des messages là, débiles. Alors, Mme Awada, évidemment, elle a reçu beaucoup de messages comme ça et d'ailleurs, en cours, elle a lu certains de ces messages-là et elle était visiblement ébranlée par les messages qu'elle a reçus. Sauf que, est-ce qu'elle a reçu ces messages-là d'une part parce que Poste de Veille a fait des vidéos? Parce que, je veux dire, il y a un débat polarisé, là. Si Poste de Veille n'avait pas fait ces vidéos-là, est-ce qu'elle aurait reçu ces messages-là? Probablement. C'est sûr, parce qu'il n'y avait pas juste Philippe Magnan et Poste de Veille là, qui étaient contre elle. Tu sais, t'avais des féministes, les Jeannettes, etc. Tu sais, il y avait quand même des groupes qui avaient beaucoup de traction qui étaient contre elle. Donc, c'est ça. En tout cas. Et en même temps, le danger là-dedans, c'est lorsque je diffuse mon opinion, est-ce que je dois tenir en compte absolument d'une possibilité que des gens pourraient attaquer une personne parce que j'ai fait cette vidéo-là, à un moment donné, là, ça serait, d'après moi, comme couper les jambes de la liberté d'expression. Si, par exemple, tu as un jugement et que le dommage, c'est qu'une personne, en fait, son dommage, c'est qu'elle a été traumatisée parce qu'elle a reçu des messages haineux, parce qu'un journaliste ou quelqu'un qui a émis son opinion sur le web, peu importe, il a émis une opinion qui était juste, qui était d'intérêt public, etc., et que là, il y a des gens qui ont envoyé des messages de haine à cette personne-là et que cette personne-là l'emmène l'autre en cours pour diffamation puis gagne sur ce point-là, on a un méchant problème, là. Parce que moi, je ne peux pas prévoir la réaction des gens puis je ne peux pas être garant de chaque citoyen au Québec comment ils sont mongols. Alors, je pense qu'il faut vivre, si tu veux donner ton opinion en public, il faut que tu t'attendes à avoir des Mongols qui vont t'envoyer des messages. Tu sais, je le sais, là, moi, là, ça fait 5 ans que je donne mon opinion sur Internet. Et là, je suis rendu dans un studio avec l'éclairage des caméras, un micro, etc. Mon objectif, c'est que ce studio-là prenne de l'ampleur. Donc, je m'attends à ce que les messages haineux augmentent en conséquence. Même si je donne mon opinion, j'analyse, j'embarque pas dans des débats nécessairement polarisés, à minute que tu donnes ton opinion. Tu sais, tu pourrais te donner ton opinion sur qu'est-ce qui est meilleur entre un Alienware puis un iMac, puis tu vas avoir des messages de haine, là. À minute que tu donnes ton opinion sur Internet, tu vas recevoir des messages de haine. Alors, du côté de Mme Awada, c'est sûr que ses avocats doivent démontrer avec les témoignages des gens, donc les gens qui interrogent, que elle a subi un préjudice, parce que la preuve, en fait, la preuve qu'ils amènent, ils ont un enregistrement, un aveu qu'elle a été instrumentalisée et qu'elle n'est pas une islamiste. Fait qu'ils n'ont pas besoin de jouer là-dessus ben. Maintenant, ils doivent jouer sur le fait que c'est une bonne personne et qu'elle... Moi, ce que j'ai senti, c'est qu'elle semblait prendre ses distances avec Bridges, ses distances envers la mosquée, ses distances envers telle personne, et donc elle ne méritait pas ce genre de reportage que Poste de Veille a fait et qu'elle a subi des préjudices. Elle a été affectée, on a vu son moral, etc., puis elle va témoigner. Bien là, j'osais plus aller dans une mosquée de peur d'être photographiée avec des personnes parce que là, ils vont faire un amalgame, etc. Puis moi, je trouvais ça tout à fait raisonnable. Comme témoignage, c'est sûr. Maintenant, la preuve, en fait, s'est faite sur 2 jours et demi, 3 jours. Je parle du côté de Mme Awada. Et au niveau des témoins de Philippe Magnan, ça a été assez rapide. Et du côté de Mme Awada, c'était à peu près tous les témoins, je crois, c'était tous des amis proches. Alors que du côté de Philippe Magnan, pas vraiment, il y en a un qui est hostile à Philippe Magnan, puis l'autre, il y a déjà envoyé une mise en demeure. OK, on s'entend là. Mais moi, autant, je dois vous dire à l'avance, là, moi, j'ai un parti pris pour Philippe Magnan parce que c'est un média indépendant qui n'est plus, qui fait plus rien depuis plus qu'un an. À cause de cette poursuite-là, puis moi, j'ai peur à la liberté d'expression. Mais ce qui m'aurait fait changer d'idée, mettons changer de camp en cours de procès, c'est si j'avais vu des évidences que Philippe Magnan était vraiment de mauvaise foi, puis il a été méchant, puis il a pas fait ses recherches comme du monde. Là, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, au départ, je comprends que Mme Awada, elle avait toutes les raisons de croire qu'elle est diffamée, etc., fait que je suis très sympathique à sa cause, mais je suis également, tu sais, si j'ai à choisir, ben moi, je vais choisir le gars de la liberté d'expression, tu sais, du média indépendant. Je suis un média indépendant. J'ai peur, moi, de me faire fermer, là, parce que quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que moi m'emmène en cours. Et d'ailleurs, point de vue djihad juridique, ben un des éléments qui appuierait cette thèse-là, c'est que d'un côté, il y a un grand cabinet, en tout cas un cabinet reconnu. Je pense que Mme Goldwater, là, on s'entend, est connue, là, cette madame-là. C'est le cabinet Goldwater-Dubé et elle est représentée par Maître Dubé. Il y a 2 avocats en tout temps avec elle. De l'autre côté, tu as un gars qui se défend tout seul. Moi, ce que je regarde, c'est lorsqu'on veut, comment je pourrais dire, prouver un point, on va attaquer une cible qui est faible mais significative. Donc, on va attaquer une personne qui n'a pas d'argent, mais qui est significatif, dans le sens que ça va donner, passer le message à tous les autres médias indépendants. On parlait de Vigil, qui était au départ dans la poursuite, mais ils ne sont plus là. Bien, c'est tout écrit sur le site de Vigil, pourquoi. Et Poste de Veille, puis si tu continues à extrapoler, ça va s'en venir à moi à un moment donné. Là. Alors, c'est sûr. Alors, mais ce qui m'aurait fait changer d'idée, c'est OK, là, je vois vraiment, là, Philippe, il a pas été correct, il a été méchant, il a pas fait sa job. Puis là, je me serais rangé du côté de Mme Awada, puis j'aurais dit, Philippe, je suis désolé, là, mais elle a raison. Puis, tu sais, je vais prendre une leçon de ça, là. Merci pour la leçon, mais... Et là, commence le témoignage de Philippe Magnan. Pour vous décrire un peu Philippe Magnan, je pense que c'est important de le faire. Philippe Magnan est une singularité. Je n'ai jamais vu une personne comme lui auparavant. Il est extrêmement brillant, OK? Ça veut dire que son quotient intellectuel est très, très au-dessus des gens intelligents. Pas de la moyenne, des gens intelligents. Il est extrêmement articulé. Les gens qui ont assisté au procès, ceux qui, en tout cas, qui ont vu son témoignage, qui a duré quand même plusieurs heures, ont remarqué quelqu'un de très articulé et de très pointilleux, très précis. Et on a vu au long de son témoignage, d'une part, il a commencé par expliquer comment il en est venu à s'intéresser au côté musulman, islamiste, etc., de cet aspect-là du projet de charte. Donc, il a commencé à s'intéresser à ça à partir du conflit en Syrie, parce que c'est vrai que c'est très complexe, la Syrie, puis tout ça. Et ensuite, il nous a expliqué de façon très exhaustive quelle était sa méthode pour aller chercher, d'une part, de l'information, mais de la computer. Et son objectif, c'était de cartographier les différents groupes qui s'opposait à la charte des valeurs québécoises proposée par le Parti québécois. Donc, un peu comme McLove, par exemple, McLove et Caporal-Chef vont cartographier les antifas, puis ils le font très bien. Et d'ailleurs, McLove et Caporal-Chef, vous devez apprendre de ce procès-là, vraiment. Faut parler avec Philippe Magnan. Quand il va avoir un transcript du procès, allez chercher ça, parce que ce que vous faites avec les antifas, Philippe Magnan l'a fait avec les groupes dits islamistes ou intégristes au Québec, puis au Canada, puis etc. Donc, il explique de façon exhaustive et même philosophique, je devrais dire, comment il va chercher l'information, comment il la compute et comment il la livre. Et c'était extrêmement intéressant, juste ce point-là. Et ce que ça m'a dit, moi, c'est le côté téméraire, je viens de l'enlever, là. Oublie ça. La juge, je serais vraiment surpris qu'elle retienne un argument de témérité. Parce que cette personne-là, Philippe Magnan, est tellement anal au niveau des mots qu'à un moment donné, lors d'un compte interrogatoire, donc Maître Dubé qui pose une question, vous avez reçu un message de Mme Awada qui dit « Je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça. » Puis là, je paraphrase, OK? C'est un exemple. Puis là, il dit « Non. » Elle a le message dans les mains, là. Attendez une minute, là. Vous dites que vous n'avez jamais reçu un message qui dit « Je comprends pas pourquoi... » Non. Puis Philippe, il a le message devant lui. Elle a le message dans les mains. Elle dit « Veuillez lire le message, s'il vous plaît. » « Je ne comprends juste pas pourquoi... » Elle n'avait pas dit le mot « juste ». Parce que lui, il est sous serment. Et c'est tout important, ça. Elle ne m'a pas envoyé un message pour me dire « Je comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur moi. » Elle a écrit « Je comprends juste pas pourquoi tu m'as... » Donc, c'est à ce point-là qu'il annale, le gars. C'est à ce point-là que les mots sont importants. Et parfois, c'est arrivé que Maître Dubé a dit « Vous avez écrit tel mot », puis il a dit « Vous avez raison. » La vraie affaire que j'aurais dû écrire, c'est mon erreur, j'aurais dû écrire ça comme ça. Mais tu vois que le gars, il est pointillé à un niveau là, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et même la juge, il posait des questions. Par exemple, trouves pas ça normal qu'un imam chiite rencontre d'autres chiites? Vous avez pas vérifié ça? Ça vous a pas passé par l'esprit que... Et là, il part. Ben, vous avez tout à fait raison. Puis là, il continue. Ben, dans le chiisme, il y a plusieurs, da-da-da. Puis là, écoutez, là, c'était un cours magistral d'islam et de groupes islamistes, groupes intégristes, des divers courants, des diverses sortes d'islam, etc., etc. Là, c'était... Les gens qui étaient là pour en témoigner, là, que c'était... Quand, en fait, après la première portion de son témoignage, les gens l'attendaient dans le corridor pour dire « Wow! Hey, c'est fou! » Alors, au niveau de la témérité, moi, je pense pas que ça peut être retenu. Et maintenant, à mesure qu'il parlait, le côté instrumentalisé, là, devenait de plus en plus mince. Parce que quand on parle d'instrumentaliser, on parle d'exploiter. Et là, instrumentaliser, lorsqu'il a utilisé ce mot-là, ça ne voulait pas dire exploiter. Puis il peut démontrer que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est un symbole. Elle a dit, à tout le monde en parle, qu'elle porte le voile par choix et que, oui, il y a des courants dans l'islam où des femmes sont voilées et que ce n'est pas un choix, mais pas au Québec. Donc, à part ça, tout le monde en parle. Elle est une actrice du clan des inclusifs. Ils ont beaucoup de visibilité dans les grands médias. Donc, c'est sûr qu'il a utilisé cette icône-là avec sa déclaration pour la contredire. Maintenant, il a associé, ben, Madame Awada, vous êtes membre de Bridges. Bridges reçoit, c'est l'imam attitré, c'est un tel monsieur du Centre culturel musulman de Montréal. Donc, il a fait une espèce de triangle, là, le Centre culturel musulman de Montréal, qui est ouvertement communiste, islamiste. Puis il y a le journal, je ne me rappelle plus, Sada El Mashrek, je crois, qui a ses bureaux-là, selon le registre des entreprises, puis là, il fait un lien avec Bridges, etc. Et à mesure qu'il donnait son exposé, à mesure que les liens étaient de plus en plus solides, puis on voyait que ce gars-là, il a fait une recherche d'enquêteur extraordinaire. Et même pendant son témoignage, tu sais, l'objection, il s'agit ici d'une opinion d'expert, la juge, évidemment, effectivement, vous n'êtes pas un expert, tu sais, vous n'êtes pas un expert attitré par la cour, mais je ne connais pas de personnes qui connaissent ces... Tu sais, Philippe Magnan est un expert. C'est pas l'expert de la cour, mais il connaît ça, là. Je pense que la juge va reconnaître que l'homme que j'ai devant moi, il connaît ça, là. Il sait de quoi il parle. Il a fait ses recherches. Et les liens qu'il a créés avec Bridges, le CCMM, puis le journal Sada El Mashrek, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Il y avait des bonnes raisons de croire que c'était un triangle qui était fonctionnellement lié ensemble. En tout cas, plus que ce que prétendait Mme Awada. Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais moi, j'ai vu une démonstration. La preuve, elle vient de shifter de l'autre bord, là. Pour moi, en tant que spectateur, je regarde ça. À moins que ce soit contesté à tort de bras pendant le plaidoyer, là. Mais, et j'avais dit au départ, Mme Awada prend un risque ici. Parce qu'elle ne sait pas contre qui elle s'en va en cours, là. Si vous pensez que Philippe Magnan, c'est un ticoune, vous allez. Je pense qu'ils l'ont réalisé. Donc, le risque, c'est. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une cérémonie de voile à Montréal où on voilait des petites filles et que ces petites filles-là, sur vidéo, disent « Oui, je porte le voile par choix parce que je suis obligé. » Mais là, à un moment donné, votre crédibilité va en prendre un peu parce que, visiblement, lorsque vous affirmez une chose comme ça, ben on peut le prouver le contraire, ben je vais moins me fier à vous quand il s'agit de... Si je veux m'informer sur l'islam... on parle de l'islam de façon globale. Parce que je regarde Philippe Magnan, qui est super documenté, qui est ultra brillant, qui est capable de mettre les morceaux de puzzle à la bonne place, qui est rigoureux, ben, je vais bien plus me fier à lui qu'à vous. Donc, à la fin de cet exercice-là, moi, c'est ma conclusion. Je ne peux pas me fier sur Mme Awada lorsqu'elle donne son opinion sur l'islam, les enjeux de l'islam ou le voile ou peu importe. Parce que vous avez affirmé des choses qui ont été contredites et l'auteur de ces vidéos-là a mis les morceaux de puzzle très clairement en cours. Alors, moi, je pense que Mme Awada, dans ce, même si elle gagnait, puis honnêtement, je vous fais ma prédiction, là, si jamais, mettons, la juge donne raison à Mme Awada, je tombe sur le cul et j'appelle moi-même un avocat immédiatement, puis j'emmène Radio-Canada en cour. Parce que si elle, elle gagne contre Philippe Magnan, moi, je vais torcher Radio-Canada, qui ont dit que j'étais d'extrême droite, puis ont fait plein d'allégations fausses sur moi pendant une émission. Et je peux dire que le préjudice, c'est, ben vous m'avez l'organe étatique des communications me traite, moi, d'extrême droite. Après ça, j'essaie de donner une conférence dans le cadre du mouvement républicain du Québec, le colloque à Montréal. Les antifas vont décollisser ça. J'essaie d'aller parler dans un bar. Les antifas décollissent ça parce que je suis étiqueté extrême droite. Je fais une tournée de conférences. À chaque place, il y a de la merde à cause des antifas parce qu'ils pensent que je suis d'extrême droite parce que vous avez dit... Tu sais, ma prédiction, là, c'est... Je vois pas comment la juge peut donner raison à Mme Awada avec comment Philippe Magnan a été extrêmement solide. Écoutez, là, ça a été un privilège pour moi d'écouter le témoignage de Philippe Magnan. De voir à quel point il est brillant, il est rigoureux. Et au niveau, tu sais, c'était pas de la témérité. Il y a tellement d'éléments pour appuyer les vidéos qu'il a fait. Tu sais, t'écoutes ses vidéos, tu dis, tabarouette, c'est wow, il a fait beaucoup de recherches, vous avez pas idée. OK? C'est la pointe du iceberg. Et autre chose aussi, c'est que pendant le contre-interrogatoire, là, je sentais qu'il y avait, lors de la preuve de Mme Awada, je voyais, OK, ils vont jouer là-dessus. Et là, à un moment donné, tu te rends compte, oups, ils n'insistent pas pour ces arguments-là. Parce que quand tu poses une question à Philippe Magnan, il en donne pas mal plus que le client en demande, là. C'est-à-dire que si je donne un punch, j'en souhaite trois. Il faut faire attention. Donc, j'ai vu qu'ils ont abandonné certains aspects qu'ils voulaient amener. Puis encore là, je vais en parler lorsque ça sera terminé, lorsque les délibérations seront terminées, pas avant. Mais si j'ai à regarder, puis encore une fois, dites-vous que au départ, j'ai un parti pris pour Philippe Magnan. Donc, prenez mon interprétation avec un grain de sel. En tout cas, prenez-le de façon très critique. Moi, j'ai remarqué, du côté de Mme Awada, lorsqu'elle était contre-interrogée par Philippe Magnan, que parfois c'était flou. C'était pas solide, là. Si tu compares à Philippe Magnan, lorsque Philippe Magnan répondait, c'était très solide. Il était positionné, juste pour vous donner une idée, là. Imaginez, le gars, il a un beau veston, de belle chemise, puis des running shoes. Les yeux fermés, il y a comme les poings de même, légèrement, les genoux légèrement plissés, là, comme s'il se préparait, là. Amène tes questions, je suis prêt, vas-y. Et il était très solide, très solide. Fait que pour établir la crédibilité des personnes, donc la crédibilité de Mme Awada, la crédibilité de M. Magnan, si la juge, dans son jugement, par exemple, va dire « ben, j'ai pas trouvé M. Magnan crédible, je tombe en bas de ma chaise, puis j'ai hâte qu'elle me dise pourquoi il n'était pas crédible, parce que je vais apprendre beaucoup, parce que je comprends plus rien, là, fait que je veux comprendre, je vais « ah, wow, j'avais pas vu ça », mais ça va être très, d'après moi, très difficile de débranler la crédibilité de Philippe Magnan là-dedans. Mais je dis pas que Mme Awada n'est pas crédible. Mais si j'ai à comparer la performance des deux, comment Sharp y était quand il se faisait poser des questions et la justesse des réponses, c'était même pas comparable. Et le clan Wada, parce qu'il interroge Philippe Magnan, ça semblait de plus en plus mince, les évidences. Versus, c'est un balancier, comme expliquait Mme la juge, la personne qui va, tu sais, j'en prends 50% plus 1. D'un côté, t'as un tank, qui est M. Magnan, puis de l'autre côté, ça semblait de plus en plus faible. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucun bon point, mais ça semblait mince de plus en plus. Là. Tu voyais que leur gros canon était épuisé par le témoignage de Philippe Magnan. Il est redoutable, Philippe Magnan, par sa justesse. Comment il est sharp. Pour vous donner une idée, c'est arrivé très souvent qu'il a demandé, Madame la juge, est-ce que je peux prendre 30 secondes pour... Il fermait ses yeux. 5 secondes après, il était prêt. Madame la juge, est-ce que vous me donnez 30 secondes pour trouver tel document? Oui. 3 secondes après, il était prêt. Fait que dans sa tête, là, ce gars-là, 30 secondes, c'est 5 secondes. C'est pour nous autres. Un 30 secondes de lui, c'est 5 secondes de nous autres. Il était très sharp. Les premières journées, les 2 premières journées, puis à la fin, vers la fin de la 2e journée, il a été averti sévèrement par la juge un moment donné. Parce que il bouge beaucoup, puis il y a des micros, tu peux pas bouger. Il interrompait les témoins. Tu vois qu'il était pas habitué, là. Puis il était... Parce qu'il va tellement vite dans sa tête. Il te pose une question, t'as pas fini de répondre, mais il est tellement vite qu'il sait qu'est-ce que tu vas dire. OK. Puis en même temps, il se dit, j'ai peur de manquer de temps. Il a tout le temps peur de manquer de temps. Et il s'est repris après ça à partir de mercredi. Mais je peux vous dire une chose, il a atteint la limite de la juge à un moment donné. Là. Je l'ai senti, là, c'est comme... t'as étiré l'élastique au maximum. Il va falloir vraiment que t'écoutes la juge. Là. Arrête d'interrompre, puis parle dans le micro, arrête de bouger. Il rentre dans la bulle. Là. Tu sais, c'était hilarant. Là. Il rentre dans la bulle du témoin, genre... Tu peux pas faire ça, t'sais. Mais il est... Tu sais, je vous dis, là, Philippe Magnan, c'est une singularité. Alors... Des évidences de djihad juridique, ben c'est d'attaquer une cible faible mais significative. Mais ce qui contredit ça, c'est que je pense qu'il y avait en masse d'éléments pour penser qu'il allait gagner. Il y a un aveu, audio, mais la dame n'est pas une islamiste et il le sait. Mais dans les vidéos, elle va être associée à des groupes islamistes, etc. Mais ensuite, il a expliqué, lui, de son bord, pourquoi j'ai dit ça. Puis ça, je vais en parler plus en détail après les plaidoiries. Mais je vous le dis, là, c'était spectaculaire. Rien de moins, le témoignage de Philippe Magnan. Et si jamais Mme Awada gagne ce procès-là, bien, dès que je reprends connaissance, je vais immédiatement appeler mes amis avocats et monter un dossier contre Radio-Canada parce que je vais gagner rapidement. Okay? Ils vont peut-être même pas vouloir aller en cours. Là. Je vais leur renvoyer le jugement à Wada Magnan. Là. Ils vont « tabarnak! » Ma perception, là, tu sais. Ça va être terrible. Alors... Ça, c'est le point qui dit c'est pas un djihad juridique parce qu'elle a toutes les raisons. Et moi, je la comprends. Je la comprends parfaitement, puis j'aurais fait à sa place. Exemple, tu sais, je suis d'un grand média, donc plus t'es connu, plus ça va t'affecter de la mauvaise presse sur toi. Et je comprends ce bout-là. Alors, moi, je pense pas que cette... J'ai pas d'évidence pour contredire ce que je sais. Qu'elle porte le voile à des fins politiques. Je suis persuadé avec les évidences que j'ai qu'elle ne porte pas le voile à des fins politiques. Elle porte le voile parce que ce sont ses croyances profondes et qu'elle le fait vis-à-vis ses valeurs et tout ça. Je suis persuadé que Mme Awada, c'est une bonne personne, qui a un bon cœur et qui milite pour les choses qu'elle croit. Moi, j'ai pas de misère avec quelqu'un qui milite pour ses convictions. Même si, je prends un exemple, c'est mon adversaire, puis elle milite pour quelque chose, puis moi je suis adversaire à ça, ben, je peux quand même penser que cette personne-là est de bonne foi, là. Elle n'est pas de mauvaise foi. C'est genre, OK, tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont forcément de mauvaise foi. Tous les musulmans qui disent quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est forcément la taqiya. Et la taqiya, c'est mentir pour préserver la religion. Tu sais, puis je le dis de façon comme très, très, très vague. C'est pas ça, mais c'est ça dans la tête du monde au Québec. Moi, personnellement, et j'ai il y a monsieur Maître Bourget, Maître Rémi Bourget, qui a témoigné, qui m'a contacté par Messenger, puis il était très gentil. Moi, je l'ai vu, ce monsieur-là, témoigner, puis je me suis dit, sais-tu quoi? J'aurais fait la même affaire, mon ami, là. Moi, je le trouve très sympathique, ce monsieur-là. Il n'est pas aimé du côté, parce qu'il a fondé les Inclusifs, il n'est pas aimé du côté avec qui je dînais. Et c'est un si, mais moi, je le trouve sympathique, puis il se bat pour une cause à laquelle il croit. Moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Puis je veux parler à du monde de même. Parce que je veux pas parler à des gens qui sont de mauvaise foi. Je veux pas parler à des gens qui veulent me faire taire. Je veux parler à des gens qui ont une opinion différente de la mienne, qui sont parlables, comprendre leur point de vue, puis faire avancer, moi, mon cheminement. Ça c'est, je trouve ça fascinant, et c'est comme ça qu'on va bâtir une meilleure société. Donc, les gens qui ont une opinion différente de la mienne, si je vois qu'ils font avec leur cœur, leur conviction, ben je ne vois pas pourquoi que je dirais qu'ils sont de mauvaise foi, puis c'est des menteurs, puis c'est des crosseurs, puis c'est des tout de cul. Il a le droit de penser différemment de moi. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous grandi dans la même ville avec les mêmes parents, on n'a pas tous fréquenté, exemple, les mêmes églises, les mêmes amis, les mêmes écoles, les mêmes cours. Si on s'entend, là, chaque personne est unique, puis un vécu différent. Et dans nos différences, on se regroupe avec des dénominateurs communs, puis etc. Bon, c'est comme ça que la société se forme. Mais on est tous des gens, on est une expérience unique, chacun de nous autres. Fait que si on se met tout en vase clos et on se parle pas entre nous autres, ben forcément, c'est une guerre. C'est j'impose mon idée avec la force parce que c'est la seule façon que je peux la faire passer. Personne t'écoute, à part ta gang à toi. Donc moi, j'ai énormément de respect pour le clan Wada et je dénonce les gens qui lui ont envoyé des messages de haine haut et fort. Vous n'aurez jamais mon respect si vous m'envoyez « Hey, André, check, j'ai envoyé tel message à Wada, la tabarnak. » Puis ça arrive des fois, hein, que je reçois « Hey, check ce que j'ai écrit à telle personne. » Je m'excuse, là, tu n'auras pas mon respect. Tu vas avoir mon respect si « Regarde ce que j'ai écrit d'Allah Wada, puis c'est un message cohérent où tu exprimes un désaccord. Pourquoi? » Puis, je sais pas, moi, tu l'invites à débattre avec toi ou... Mais si tu le fais de façon respectueuse, j'ai aucun problème avec ça. Mais de traiter les gens de non, puis de... Tu sais, t'es un islamiste, t'as qu'une crise de suppos de l'islam radical, t'es... Tu sais, à un moment donné, là, yo, y a aucune évidence qui supporte ça. Et Philippe Magnan, pour moi, il a démontré que c'était l'expert, OK? Philippe Magnan, ce n'est pas un islamiste. Je vais écouter Philippe Magnan bien avant du monde sur mon wall Facebook qui disent le contraire. J'étais au procès, j'ai pas manqué une seule seconde, j'ai tout vu. Et là, il va y avoir des plaidoiries. Je vais être là. Il va y avoir le jugement. Je vais être là. J'ai plus de crédibilité que quelqu'un qui n'était pas là. On s'entend, là? Je pense. La logique me dit que une personne qui a vu une joute est en meilleure posture pour en parler qu'une personne qui ne l'a pas vue. Si, par exemple, deux personnes se parlent, il y a un qui a écouté la game du Canadien à télé, l'autre qui était sur place, la personne qui était sur place, dans ma tête, est plus crédible que celle qui l'a vue à télé, puis la personne qui l'a vue à télé est plus crédible que celle qui l'a lue dans le journal. Puis celle qui l'a lu dans le journal est plus crédible que la personne qui n'a pas rien vu. Tu comprends? Je pense que c'est normal, là. Alors, si jamais, avec les évidences que j'ai, Mme Awada gagne ce procès-là, je pense qu'au niveau de la liberté d'expression, et ça ne m'affecte pas moi directement parce que je fais pas d'allégations sur des gens. Moi, ce que je fais souvent, c'est ils ont écrit une lettre, je la décortique, je leur dis pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont écrit, avec des faits. Mais je ne vais pas dire telle personne, t'es une ci, t'es une ça, puis je ferais pas ça. Là. Genre, je t'ai vu sur une photo. Ça... Mais des enquêteurs, des journalistes d'enquête, parce que Philippe Magnan a fait un travail de journaliste d'enquête. Si Mme Awada gagne ce procès-là, je vois pas comment ça va être possible pour des journalistes d'enquête de publier quoi que ce soit. Parce que d'après mon opinion, puis ce ne sera peut-être pas l'opinion de la juge, selon mon opinion, les faits, la succession de faits qui ont été amenés par Philippe Magnan était cohérent et en nombre suffisant pour croire et dire ce qu'il a dit. Du côté de Mme Awada, elle aurait pu corriger le tir en rencontrant Philippe Magnan, comme il l'a demandé souvent de la rencontrer. Je comprends qu'elle ait dit non, parce que tu as dit des affaires sur moi que moi je trouve pas vraies, puis j'ai un aveu comme quoi tu m'instrumentalises puis que tu sais que je ne suis pas un islamiste, donc tu es de mauvaise foi, pourquoi je te rencontrerais? Je comprends parfaitement son point de vue. Parfaitement. Fait que je ne vais pas la condamner d'avoir refusé de rencontrer Philippe Magnan sur cette base-là. Mais si elle l'avait fait, sachant ce que je sais, moi, et que Philippe Magnan est de bonne foi, il l'a démontré dans le procès, tout ça ne serait jamais arrivé. Parce qu'il y aurait eu une discussion entre les deux et Mme Awada aurait eu l'opportunité d'éclairer certaines affaires. Et là, Philippe Magnan... Parce que c'est ça, tu es un journaliste, bien là, tu vas chercher des infos, puis là, il faut que tu aies validé avec l'autre personne, puis l'autre personne ne veut pas te rencontrer. Si elle veut pas me rencontrer, c'est peut-être parce qu'elle conteste pas ce que je dis. Donc, vous savez, voici moi comment je pense. Mais je comprends Mme Awada de ne pas avoir voulu rencontrer Philippe Magnan. Donc, si jamais Philippe Magnan perd ce procès-là, la liberté d'expression vient de manger une shot incroyable pour ceux qui font du journalisme d'enquête. Et qui fait du journalisme d'enquête? Les médias indépendants. Parce que les journalistes traditionnels des gros médias, il n'y en a plus de ça. Terminé. Il n'y en a plus. Et c'est quand la dernière fois vous avez vu un journaliste sain? Tu sais, je me rappelle, ils ont infiltré les Raéliens ou ils ont infiltré... l'autre religion bizarre, la scientologie ou... Il n'y a plus là, de ça. Là. Les médias de masse, visiblement, là, leur intention, c'est pas d'informer la population. C'est de livrer un message, le message des globalistes. That's it, that's all. Que ce soit vrai, que ce soit faux... Ce qu'ils racontent, c'est pas grave. C'est pas genre on ment systématiquement aux gens. Parce qu'il y a des affaires que je vais dire qui sont vraies et d'intérêt public, mais c'est complètement irrelevant. Je livre ce que j'ai à livrer, c'est ça le message qu'on veut livrer. Un message pro-globaliste et anti-peuple, littéralement. Alors, en contrepartie, parce qu'il y a un écosystème de médias, bien c'est sûr que tu vas voir la naissance de médias alternatifs. Je veux dire, les journalistes, il y en a qui veulent faire de l'enquête. Il y en a des journalistes qui veulent livrer la vérité. Et parfois, c'est pas des gens qui ont une formation en journalisme. Même souvent, c'est pas des gens qui ont une formation en journalisme. Comme un de mes amis a dit, et je vais pas dire son nom, mais des gens le connaissent, Il dit, moi, je suis dans le top de ma classe, de ma cohorte, et les finissants, les meilleurs, vont pas être journalistes. C'est les pas bons qui vont être journalistes. Je dis pas que les journalistes des médias de masse sont tous des pas bons, mais ce que je te dis, c'est que j'ai un étudiant en finissant en journaliste qui me dit à moi, les meilleurs de ma cohorte seront pas des journalistes, ils veulent pas être journalistes. C'est les pas bons qui vont l'être. Fait que pour la liberté d'expression, pour cet aspect-là de la liberté d'expression, si une personne comme Philippe Magnan, avec toute la rigueur, la précision, et j'ai pas senti de malice plus qu'il faut, il peut être cocky, il peut être baveux, mais il y a une différence entre ça et de la malice, de vouloir nuire à quelqu'un. Parce que si tu veux vraiment nuire à quelqu'un, tu vas pas lui donner ton numéro de téléphone. Si tu donnes ton numéro de téléphone à ton ennemi, t'es un hostie de cave, OK? J'ai beaucoup d'évidence qu'il est de bonne foi et il n'est pas malicieux. Alors, si une personne comme ça, aussi intelligente, aussi pointilleuse, précise, et qui a une recherche exhaustive, qui est brillant dans l'idée de mettre tout ça en ordre et de livrer un produit qui est digestible pour la masse, si une personne comme ça, avec les évidences que j'ai vues des deux côtés, est condamnée, je pense que c'est terminé le journalisme d'enquête, à moins que tu veuilles enquêter sur « Y a-tu bien des chiens qui font caca au parc La Fontaine? » Il n'y aura rien de sérieux dans les enquêtes, là. Est-ce que les voitures rouges sont plus susceptibles d'avoir des accidents que les voitures bleues? Tu sais, ça va être ça, les enquêtes que vous allez voir, là. En même temps, et ça, je vais en parler plus tard, mais ça voudra dire qu'on a... Puis là, ça va sembler peut-être bizarre ce que je vais dire là, parce que je peux pas tout vous dire, mais dans mon livre à moi, là, c'est que l'islam ne peut pas être... Puis l'islam en général, là, on s'entend, on critique les catholiques ouvertement sans aucun problème, les chrétiens, même les juifs. Il y a des chrétiens qui critiquent les chrétiens, des juifs qui critiquent les juifs, il y a des chrétiens qui critiquent les courants moraux sont critiqués sur la place publique. Mais là, ça voudrait dire qu'il y aurait une exception. L'islam, au sens large, ne pourrait jamais être critiqué. Parce que si tu le fais dans un pays d'une théocratie musulmane, ben tu te fais envoyer en prison, tu te fais tuer, etc. Tu te fais fouetter, tu as des punitions corporelles, tu te mets emprisonné. Puis dans les autres pays, ben tu es un islamophobe, un raciste. Donc dans le fond, ce courant-là, cette idée-là qui est l'islam, serait immunisé contre toute critique globalement. Il y a peut-être de quoi que j'ai pas vu. Encore là, j'ai pas vu les plaidoiries, mais j'ai vu la preuve. Et de mon côté à moi, je suis incapable de voir un scénario où Mme Awada gagne ce procès-là. Alors, c'est mes impressions. Je sais pas si ça fait combien de temps. Ah, c'est quand même un bon bout que je parle. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je pense pas faire d'autres reportages entre maintenant et les plaidoiries, parce qu'il va rien popper de nouveau, à moins qu'il pop de quoi de nouveau, mais les journalistes n'étaient pas là. Okay? Il y avait aucun journaliste sur place. Quand je parle de journaliste, je parle des grands médias. Là. Moi, je me considère pas comme un journaliste en passant. J'étais un gars qui s'est créé son média, qui a assisté puis qui donne son opinion, son point de vue, etc. Dans un dossier, je me considère pas comme un journaliste, puis encore moins comme un journaliste d'enquête. Mais il n'y avait aucun média là. Zéro. Fait que ça serait surprenant que vous voyiez un article, tu sais, dans un média, mettons, la presse sort un article sur le procès, puis que je le commente, ça me surprendrait, il était pas là. Tu sais, peut-être que dans le lundi, ça existe encore, le séjour, il y a une entrevue avec Mme Awada et comment, tu sais, elle est en procès. Puis, mais il n'y a rien de sérieux qui risque de sortir là, d'ici d'ici les plaidoiries, du moins. Alors, je vais être présent aux plaidoiries. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en passant à m'envoyer des inbox. Je vais vous répondre dans la mesure du possible. C'est-à-dire que avant les plaidoiries, je vais pas aller en détail dans le procès, mais je peux vous répondre si jamais vous voulez me demander mon opinion sur quelque chose qui n'implique pas que je vous donne une information trop précise. Si vous voulez avoir les grandes lignes, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif pendant cette diffusion en direct. Et cette diffusion, évidemment, va être disponible sur YouTube là, dans pas grand temps. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Gouvernement prend tout mon cash parce qu'au Québec, c'est le même, ça marche. Parce qu'au Québec, c'est le même.